1542, le prince Philippe, 99 ans, époux d'Élisabeth II, notre reine du Canada, est décédé. Et Catherine a eu l'excellente idée, my God, d'inviter Philippe Audrey Larue-Saint-Jacques, humoriste.
Et spécialiste en monarchie.
Exactement, homme à tout faire de la monarchie. Salut Philippe.
Allô, ça va bien?
Ouais, oui, est-ce que tu as écrasé une petite larme?
Ben, je suis en deuil, là. J'ai baissé tous les drapeaux royaux de mon pavillon. Je suis habillé en noir. La messe d'Handel joue, puis il y a Suffragile entre-temps qui entrecoupe ça. Je veux dire, ça y va, là. C'est une journée très éprouvante. En plus, DMX est mort. C'est pas facile comme vendredi.
Mais Philippe Audrey, j'aimerais ça que tu... Parce oui. que c'est pas nécessairement le personnage le plus intéressant de la monarchie britannique, selon moi. Je pense que Dieu merci que The Crown soit arrivé, parce que sinon, écoute, le prince Philippe, là, mais pour toi, est-ce que c'est un personnage intéressant?
Ben, étonnamment, oui. C'est pas mon préféré, parce que je peux dire que c'était quelqu'un d'ultra conservateur, mais en même temps, il est né en 1921 dans une famille royale. Fait que quand on dit conservateur, là, t'es conservateur de chez conservateur. Tu sais, c'est moisi dans la conserve, là. Ce genre de pedigree-là, mais n'empêche que c'est un personnage qui a connu, ne serait-ce que son enfance, qui est vraiment fascinante. Il est né en 1921, il est né dans une famille, la famille, en fait, qui est comme, comment dire, prince du Danemark et de Grèce, qu'on se doute pas parce qu'il est devenu prince d'Angleterre. Il est né dans une famille dano-allemande qui s'appelle les, je vais le dire, Schleswig, Holstein, Soderbourg, Glücksberg. Fait que si on pense que Philippe Audrey, la rue Saint-Jacques, appelez-vous sur cette maison-là, parce que ça, c'est quelque chose. Comme il pouvait pas jouer au hockey bavette souvent, là. Ça aurait pas suivi avec les commentateurs.
Ça n'aurait pas entré sur le chandail, je pense.
Exactement. Mais il est né dans une famille, autrement dit, de deux familles royales. Puis il était plus du côté grec. Et ce qui est arrivé, c'est que, à peu près, quand il y avait un an, en 1922, il y a eu une genre de guerre entre la Grèce et la Turquie qui a vraiment déstabilisé la monarchie grecque, et il a été obligé de fuir. Puis il a comme vécu un peu dans la paille, dans une façon un peu rocambolesque en France pendant toute son enfance, les 7 premières années de sa vie. Puis quand je dis dans la paille, ben tu sais, il y a quand même, c'était une paille royale, là. Fait que c'était sa tante qui était une descendante de Napoléon, puis son oncle qui était prince de Grèce. Fait que c'était quand même mollo, là, comme paille, mais selon leurs critères, c'était vraiment misérable. Puis ensuite, il a été pris par son oncle Louis Mountbatten, qui a eu quand même un impact géopolitique pendant la Deuxième Guerre mondiale. Entre autres, c'est lui qui était derrière, le débarquement de Dieppe, qui a été un désastre total, particulièrement pour les Canadiens français. Et donc, il est devenu très très britannique, quasiment plus britannique que les Britanniques, parce qu'il était de descendance étrangère et aussi d'une famille d'origine allemande, qui était très, très, très impopulaire dans l'après-Première Guerre mondiale en Angleterre.
Il s'est fait critiquer, entre autres, parce que ses quatre sœurs avaient marié des princes allemands.
Ouais.
Et il y avait une espèce d'acoquinance avec les nazis et tout. Donc, il a été hautement critiqué pour ça.
Oui, oui, exactement. Puis même, un secret que bien connu, c'est que la famille royale, les Windsor, en fait, à l'origine, ils ont des racines allemandes par le prince Albert, qui était l'époux de Victoria. Et donc, ils ont été obligés d'angliciser leur nom, parce que le prince Philippe, mettons, on dit Mountbatten, mais c'est Battenberg, en fait. Et comme Windsor, c'était aussi Saxe-Cobourg, mais ils ont vraiment anglicisé sur Windsor. Puis c'est vrai qu'à l'époque, c'était vraiment une question de maintien de la puissance monarchique et, disons, du côté très, très britannique de la couronne, pour être sûr qu'elle reste 100% britannique. Fait que c'est pas d'aujourd'hui, là, les espèces de débats qu'on entend de c'est quoi qui est un vrai ci, un vrai ça. Je veux dire, à l'époque, c'est encore pire, mettons.
OK, Philippe, on va te garder pour la pause, et au retour, on va continuer à parler de
mon chou, de
cette décoration britannico-danoise-grecque qui était le prince Philippe. Bouge pas, 15-40. De retour avec Philippe Audrey, la rue Saint-Jacques, pour parler de ce personnage absolument pas vraiment fascinant qui était le prince Philippe, appelons ça une guirlande. Il était très protocolaire, et c'était aussi un joueur de polo extrêmement doué, Philippe.
Oui! Un excellent joueur de polo, un excellent marin. En fait, c'est un grand sportif, le prince Philippe. Hein?
Oui, hein? Ben, il y avait beaucoup de temps, faut dire, pour travailler son corps.
Oui, non, c'est sûr. C'est sûr que quand t'es marié à la couronne britannique, ton métier, c'est de s'occuper de la couronne.
Ouais.
Quand la couronne est occupée, c'est-à-dire 97% du temps, ben, tu t'occupes tout seul. Fait qu'il y a des gars. Mais lui, il faisait ça. Il y avait plein d'associations aussi par rapport au polo. Il y a eu un club de polo royal et tout. Fait qu'il était très, très impliqué. Puis c'est lui qui a transmis ce sport pas du tout élitiste à ses princes de c'est un gars proche du peuple.
Mais parle-nous de la reine, son amour pour la reine. Il
Il est proche du peuple, mais pas très proche de son fils Charles quand même. Hein? Une relation difficile, on peut le dire. Là.
Ben oui, puis ça c'est vraiment c'est triste quand même ce soir-là parce que dans le fond, prince Charles c'est un gars sensible, hein? Puis prince Philippe c'est vraiment un prince plus droit, quasiment très militaire en fait. Et le prince en fait, lui, ce qui est arrivé, c'est qu'il l'a envoyé dans son école en Écosse. Où le prince voulait pas aller. Gordonstown, ça s'appelle, c'est une école très privée, très élitiste, puis qui était très, très dure, très rigoureuse, trop pour le prince Charles. Puis ils se sont jamais vraiment pardonné ça l'un et l'autre.
Ouais, mais moi, ce que je veux que tu me parles, c'est de son amour pour la reine Élisabeth. C'est ce qui m'a le plus touché aujourd'hui. J'ai appris qu'il l'appelait mon chou.
Oui, mais non seulement ça, mais c'est que en fait, tu sais, lui, c'était le seul qui avait accès à la personne derrière la couronne. Parce que je sais que c'est un concept un peu étrange, la couronne, c'est quelque chose qui est censé être intemporel. C'est tellement bizarre à dire, mais c'est ça un peu la couronne. Tu pourrais ne pas croire à la monarchie, à être roi, parce que dans le fond, t'es désigné roi par le sang. C'est une institution, puis c'est toi qui est représenté par une personne. Et la personne derrière la couronne, on n'a pas accès à elle normalement. Sauf que lui, comme il était marié avec, évidemment, dans la nuit, peut-être que certains soirs, il avait accès à elle. En tout cas, j'y souhaite, parce que sinon, c'est long, longtemps. Mais c'était un vrai mariage d'amour. Puis ça, c'est quand même déchirant, parce qu'ils sont quand même mariés en 1947 par amour, et ils ont traversé le siècle au complet, ou presque, ben 73 ans quand même ensemble. Oui. C'est quand même une espérance de vie normale. Puis, je veux dire, c'est un vrai mariage d'amour, puis c'est un beau mariage, finalement.
Mais c'est un vrai raciste, quand même.
Ah, ça, oui. Un raciste, mais tu sais, comme je dis, il est né en 1921 dans une famille royale. On s'attend pas à un gars progressiste tant que ça. Là.
Non.
Je pense pas qu'il ait été à l'origine de la libération des mœurs en Angleterre dans les années 60, puis qui était à l'origine aussi de la création du mouvement punk. Il y a quelque chose qui me dit qu'il n'y avait pas rapport là-dedans. Mais c'était quand même un gars qui était étonnamment aussi plutôt écolo, je veux dire. Il était très axé sur le jardinage de la nature. Là, je sais encore, il y avait des jardiniers pour l'aider, mais il y avait quelque chose de... Il y avait quelque chose quand même de plus naturel que tout le monde dans le
monde. T'as de la misère à le dire sans rire.
Ben là...
Hey, avant qu'on se quitte, Philippe Audrey, je sais que t'as de la vaisselle royale. T'avais-tu un morceau de vaisselle du prince Philippe? T'avais-tu ça de caché chez vous?
T'as 30 secondes.
Ouais, ça c'est l'affaire que je veux jamais parler en public, mais oui, j'ai bu du vaisselle royale. Des petites tasses. Puis j'en avais ce matin, par hasard, j'ai bu mon thé anglais dans la tasse de mariage originale de 1947 de Philippe et Reine Élisabeth. Le hasard fait bien ou mal les choses, mais si vous en avez de la vaisselle royale, je suis très, très preneur. Je dis ça aux auditeurs.
C'est toujours intéressant de t'entendre parler de quoi que ce soit et particulièrement quand tu parles de la couronne. Merci, Philippe Audrey.
Ça fait plaisir.
Philippe Audrey, la rue Saint-Jacques. Oui, ça fait du bien de finir l'heure en riant comme ça. OK, merci tout le monde d'être là. Pour la deuxième heure, on va parler d'un sondage sur les perceptions des Québécois face à la COVID. Vous allez voir, il y a des résultats surprenants.